RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'actualité internationale de ce jeudi 12 décembre, c'est d'abord la Syrie et Mohamed al-Bachir, premier ministre de transition, qui s'est voulu rassurant hier dans une interview au Corriere della Sera. Il a déclaré, je cite, « Nous garantirons les droits de tous et de toutes les confessions en Syrie ». Il a également appelé les Syriens exilés à rentrer chez eux pour reconstruire le pays. La situation en Syrie, qui sera évoquée aujourd'hui par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, en visite en Jordanie. Il sera demain en Turquie. Emmanuel Macron, lui, sera en Pologne. Aujourd'hui, le président français se rend à Varsovie pour discuter d'un renforcement de l'aide apportée à l'Ukraine qui fait face à la Russie sur son sol. Emmanuel Macron qui s'est engagé à nommer un nouveau premier ministre en France d'ici ce soir, une semaine après la démission du gouvernement Barnier suite à la motion de censure votée par l'Assemblée. Lui est encore menacé de destitution. Un deuxième vote doit avoir lieu samedi contre Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen qui a brièvement imposé la loi martiale dans le pays la semaine dernière. Il avait dû renoncer face à la pression de la rue et de l'Assemblée nationale. « Je me battrai jusqu'à la dernière minute », a dit ce jeudi Yoon Suk-yeol. Ce matin, la police tente à nouveau de perquisitionner la présidence. 3 jours de deuil national en Haïti à partir d'aujourd'hui après le massacre de Cité Soleil survenu le week-end dernier. Et puis l'invitation de Donald Trump est lancée. Il a convié Xi Jinping, le président chinois, à son investiture en janvier prochain. Information de médias américains. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une des journaux africains, un an de pouvoir à la tête de la RDC pour Félix Tshisekedi.
À quelques jours du premier anniversaire de son second mandat, le président congolais a prononcé hier soir devant les deux chambres, réunies en congrès, le traditionnel discours annuel sur l'état de la nation. L'occasion pour lui de faire le bilan de son action à la tête de l'État et de préciser ses intentions quant à une possible réforme institutionnelle, un sujet plutôt brûlant. Dans une proposition susceptible d'attiser les débats, relate le site congolais Actualité CD, Félix Tshisekedi a affirmé qu'il était peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Il a toutefois précisé que cette initiative visait exclusivement à lancer un dialogue sincère entre les citoyens congolais pour construire un cadre institutionnel mieux adapté aux réalités du pays. Cet appel du président intervient dans un contexte marqué par un débat houleux sur la révision ou le changement de la constitution congolaise, relève Actualité CD. Si l'initiative est perçue par ses partisans comme une nécessité pour moderniser l'appareil d'État, l'opposition y voit, elle, une manœuvre visant à prolonger le mandat présidentiel au-delà des limites actuelles.
En clair, lui permettre de briguer un troisième mandat.
Oui, résultat, pointe le site congolais Beto, l'Union sacrée de la nation, coalition politique menée par le président Félix Tshisekedi pourrait bien connaître des turbulences majeure dans les tout prochains mois. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Modeste Bahati, candidats potentiels à la succession, hésitent à s'aligner totalement sur le chef de l'État. En face, seuls l'UDPS et Samalou Kandé soutiennent sans réserve le président. Une division qui pourrait redéfinir le paysage politique congolais.
En tout cas, cette manie de vouloir tripatouiller la Constitution est habituelle en Afrique.
Oui, c'est du moins ce qu'estime Wakat Serra au Burkina Faso. Pourquoi, hélas, un troisième mandat à l'africaine ? Là est tout l'enjeu de la problématique. L'explication va dans plusieurs sens, pointe le site Ouagalais, à pas du gain, soif inassouvie d'honneur et de puissance, narcissisme inqualifiable mais dangereux. C'est dans cette obstination que le Guinéen Alpha Condé a été poussé jusqu'au bout de l'opprobre, chassé du pouvoir par un coup d'État. Rattrapé par l'heure de vérité, le Sénégalais Macky Sall l'a échappé belle, après avoir cherché sans succès à faire tourner son peuple en bourrique. Et Wakat Serra de conclure, la liste n'est pas exhaustive.
Reste que Félix Tshisekedi, dans son discours, ne s'est pas attardé sur cette question.
C'est ce que relève Jeune Afrique, pour qui le président congolais est apparu étonnamment modéré sur cette possible révision de la Constitution. On était loin du ton quasi martial adopté en octobre à Kisangani, puis à Lubumbashi, Kipushi, Kalimier ou encore Isiro. Quand le président avait vertement critiqué une Constitution, avait-il dit, rédigée à l'étranger par des étrangers ou encore qui obligerait, dans son article 217, les Congolais à abandonner une part de leur souveraineté à des États voisins. En fait, pointe le site panafricain. Dans son discours, qui aura duré près de 2 heures, Félix Tshisekedi a préféré s'attarder sur des questions économiques et sociales, dressant un bilan plutôt positif des premières années de sa présidence. Baisse du prix des produits pétroliers et des produits de base, gratuité des soins de maternité pour plus de 1 million de personnes, relance de la mine de zinc de Kipushi, etc., etc. Il a salué des progrès notables ainsi que des avancées concrètes.
Le nouvel observateur à Kinshasa n'est guère convaincu.
À analyser les propos du président de la République, on serait tenté de croire que ceux qui ont rédigé ce discours ne connaissent pas les réalités du pays, s'exclame le nouvel observateur. Comment peut-on parler des réserves en banque dès lors que beaucoup d'agents de l'État, notamment les enseignants, ne sont pas payés, certains depuis 10 ans, d'autres depuis plus? Comment l'entourage du chef de l'État peut-il faire croire que le cadre macroéconomique est stabilisé alors que le roi dollar ne fait que grimper, avoisinant les 3000 francs congolais pour 1 dollar? En définitive, peste encore le billet hebdomadaire congolais, c'était les mêmes redites que le peuple congolais a suivi hier. Il n'y a rien eu de neuf sous le soleil, c'est du déjà entendu et rien n'assure que demain sera meilleur qu'hier.
Frédéric Couteau. La Russie l'a assuré hier, elle est en contact avec les nouvelles autorités syriennes, notamment concernant l'avenir de ces 2 bases militaires dans le pays. La question se pose avec la chute de Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par les rebelles menés par les islamistes du HTS. Et derrière cette question sur l'avenir de ces bases russes se pose celle des conséquences sur les alliés africains de la Russie, comme la Centrafrique et les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Christophe Boisbouvier interroge à ce propos ce matin le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Général Jérôme Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
En quoi les bases russes de Syrie sont-elles importantes pour les stratèges russes qui opèrent en Afrique ?
Alors, ces bases, il faut souligner qu'il y a donc à la fois des bases navales, donc en Méditerranée orientale, ce qui est extrêmement important pour Moscou, parce que Moscou, vous savez, ne dispose pas de cet accès aux mers chaudes. Il faut passer par donc le Bosphore, par la mer Noire. Et donc, les bases navales permettaient aux Russes de sillonner la Méditerranée, d'aller éventuellement en mer Rouge. Et donc, c'était un point stratégique majeur. Et Moscou dispose aussi de bases aériennes en Syrie qui lui permettaient d'être à la fois un acteur important dans la région, mais également d'être sur la voie vers l'Afrique, en particulier vers le Sahel. Donc ces bases aériennes étaient très importantes dans la logistique russe et permettaient en fait aux Russes d'avoir ce point d'appui qui leur permettait de rayonner sur le proche Moyen-Orient et sur l'Afrique.
Est-ce que les gros porteurs russes, les Antonov, les Ilyushin, peuvent aller directement de Russie à Bangui ou à Bamako, ou est-ce qu'il doit faire une escale sur la route ?
C'est loin pour les gros porteurs russes pour effectivement aller jusque Bamako ou à Niamey. Ces bases aériennes en Syrie permettaient en quelque sorte d'avoir une allonge supplémentaire vers l'Afrique, que ce soit par exemple le Soudan, que ce soit le Tchad, le Niger ou le Mali.
Alors ce que vous appelez une allonge, c'est la possibilité pour les avions gros porteurs russes de ravitailler sur leur base de Syrie, c'est ça ?
Oui, par exemple, c'était vraiment des plateformes extrêmement utiles qui permettaient de stocker du matériel, donc des plateformes, on va dire, multi-usages pour l'armée russe et qui permettaient aussi aux militaires russes, en quelque sorte, de s'entraîner sur des populations civiles qui étaient à leur merci.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Russes vont être en mesure de conserver leur base navale de Tartous et leur base aérienne de Remémim ?
C'est une question qui est sur la table. Est-ce que les nouvelles autorités acceptent moyennant contrepartie. Au mieux, je pense qu'ils pourraient conserver la base navale, parce que sans cette base navale, ils ne peuvent plus être présents en Méditerranée orientale.
Alors évidemment, les stratèges russes réfléchissent à des bases de repli. À quelles bases peuvent-ils penser ?
Très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de possibilités en dehors de la Libye, donc partie du maréchal Haftar, donc à l'est. Il y a bien sûr l'Algérie, mais est-ce que l'Algérie voudra avoir une présence permanente de la Russie ? Donc on voit bien que l'échiquier stratégique russe dans cette partie du monde est en train de changer brutalement, sans pour autant que les Russes aient toutes les cartes en main.
On peut donc imaginer une base navale russe à Tobrouk et une base aérienne russe à Benghazi, chez le maréchal Haftar ?
Éventuellement. La seule chose, c'est que le maréchal Haftar est quelqu'un qui joue aussi sur tous les tableaux. Certes, il bénéficie de l'appui des Russes, mais il a aussi besoin que les Occidentaux, je pense aux États-Unis, la France, voire l'Égypte, le laissent tranquille. Et donc, pour Moscou, le grand plan qui consiste à se rapprocher des mers chaudes est totalement remis en cause avec l'effondrement du régime de Bachar el-Assad.
Alors il y a les conséquences stratégiques de la chute du régime Assad, il y a aussi l'impact politique sur les alliés africains de la Russie. Quel peut être cet impact, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique ?
Je pense que sur le plan psychologique, certains membres des juntes doivent se poser des questions quant au soutien russe, puisqu'on le voit bien dans le cadre de ce qui s'est passé en Syrie. La seule solution qu'a pu apporter Moscou, c'est l'exfiltration de la famille de Bachar el-Assad. Donc, on peut supposer que les juntes qui ont un ton très agressif contre l'Occident, et je pense notamment contre la France, vont peut-être mettre, excusez-moi l'expression, de l'eau dans leur vin, parce qu'on voit bien que Moscou n'est pas capable, en fait, de gérer plusieurs guerres simultanément. L'Ukraine accapare l'essentiel des capacités militaires de la Russie, et donc il n'est pas dit que Moscou soit prêt à envoyer des centaines de mercenaires de ce qui était Wagner pour soutenir ses juntes. Donc il risque d'y avoir une attitude plus prudente des juntes, parce que le soutien de Moscou, visiblement, il n'est plus du tout inconditionnel. Donc on risque d'avoir beaucoup de nouvelles surprises en 2025 au Sahel, avec peut-être des mouvements de rébellion qui vont profiter de l'occasion. Donc il faut rester très vigilant sur ce qui va se passer au Sahel donc dans les mois à venir.
Général Jérôme Pellistrandi, merci.
Cet entretien avec Christophe Boisbouvier est à retrouver sur le site internet d'RFI. Maman, ce matin, vous nous faites découvrir un tout nouveau type de gouvernement.
Oui, un très démocratique république, il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose de nouveau. Un mot, un concept, un théorème ou alors un nouveau type de gouvernement. Aujourd'hui, deux semaines avant Noël, nous avons trouvé au pied du sapin de Noël, dans nos petits souliers, un joli groupe de mots, un concept révolutionnaire, le gouvernement d'intérêt général. GIG, en abrégé pour les intimes. Même si vous avez passé les derniers jours, mes amis, tout là-haut en orbite basse en compagnie des satellites d'Elon Musk ou alors planqué dans les parages de Notre-Dame de Paris pour apercevoir les silhouettes du même Elon Musk et de son collègue milliardaire Donald, vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez jamais entendu parler de gouvernement d'intérêt général en République de Mbengue, capitale Paris. Eh oui, en ces lendemains de gouvernement Barnier, complètement dissous dans une motion de censure, on peut dire que depuis le 9 juin dernier, le président est comme Proust à la recherche du tempo perdu. Et puis là, abracadabra, eureka, la solution lui est toute tombée du ciel. Il faut faire un GIG, un gouvernement d'intérêt général. Attention, il ne faut pas confondre GIG et GIG. En jazz, un GIG, c'est quand un groupe de musiciens est engagé par un organisateur de spectacle pour une seule date. C'est ça un GIG. Au Gondwana, ça s'appelle un gombo. Bon, après réflexion, un gouvernement d'intérêt général, c'est un gombo aussi pour les ministres, puisqu'ils savent qu'ils ne seront plus là que pour quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à la prochaine motion de censure ou dissolution. En économie, c'est la même chose. Un gig est un petit boulot, comme en musique. Un gig, c'est un boulot en intérim, un job temporaire. En gros, les ministres d'un gig, d'un gouvernement d'intérêt général, sont tous des pigistes. Ils veulent juste venir faire leur pige en attendant la dissolution. Faut pas confondre gig et gig. En période de guerre, un gig est là abréviation de grand invalide de guerre. Il y a quelques années, un macaron avec GIG te faisait bénéficier de droits particuliers comme le stationnement, des réductions dans le train, etc. On peut dire que ça n'a pas changé aujourd'hui. Les ministres d'un GIG, gouvernement d'intérêt général, ils ressemblent très fortement à des grands invalides de la guerre électorale puisqu'ils proviennent de partis ayant perdu les élections. Faut pas confondre GIG et GIG. Quoique si. Quand le président dit vouloir un GIG, gouvernement d'intérêt général, il veut vraiment un GIG dans son sens religieux. C'est lendemain de renaissance de Notre-Dame de Paris, parce qu'en anglais, GIG, c'est God is good, Dieu est bon. Voilà, c'est la meilleure définition d'un gouvernement d'intérêt général. Par rapport au gouvernement d'intérêt particulier d'hier, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. À lundi.
Belle journée maman et à lundi RFI Matin, vous restez dans 2 minutes, le journal.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Entre démocratie et islam, un pacte est possible. Dans son livre « Islam et démocratie » publié aux éditions du Cherche Midi, Hicham Alaoui revient sur les cas égyptiens et tunisiens et pour Carrefour du Maghreb sur l'échec de la démocratisation dans son pays natal, le Maroc.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
En République démocratique du Congo, 8 ménages sur 10 utilisent le manioc dans l'alimentation quotidienne. Mais ce tubercule est attaqué depuis plusieurs années par des maladies ravageuses, dont la maladie des nécroses racinaires. Quelles conséquences sur la culture du manioc en RDC?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
Géopolitique.
L'invasion russe de l'Ukraine, plus de 30 ans après la chute de l'Union soviétique, contribue à accélérer les transformations géopolitiques au sein de l'espace post-soviétique. Les événements récents viennent exacerber des fractures latentes, précipitant des recompositions géopolitiques en Asie centrale, dans le Caucase ou encore dans les pays baltes. Est-ce la fin de l'espace post-soviétique? Réponse avec des spécialistes.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 18h40 TU.
RFI. Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.